Grâce au programme Rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de 2 mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode. Je suis très heureuse de partager avec vous cet épisode best-of de Pourquoi pas moi. L'occasion de découvrir ou redécouvrir le parcours de certains de mes invités. Bonne écoute.
Et j'ai été contacté par Rocket Folk, le rêve de ma vie, là où je devais être, que voilà, toute ma vie, j'avais attendu ce moment. Voilà, moi j'ai appris mon métier un peu comme ça sur le tas. J'ai pas eu de chance, j'avais la foi. C'était les rockers, on voulait servir à quelque chose d'utile pour le rock. T'es venu pour prendre de la drogue, t'étais venu pour aider les Stones, les Who, Led Zeppelin, enfin tu vois les petits groupes comme les plus gros, c'est ça ta fonction, ne l'oublie pas. Donc moi elle était là ma petite voix. Alors le plus fou ça a été le Stade de France quand on m'a demandé de présenter un spectacle, je me suis dit oh là 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 là, mais j'étais perplexe quoi. Et je sors de ma zone de confort et je me dis, est-ce que ça va faire du bien au rock? Ma femme m'a dit, mais t'inquiète donc pas, les dieux du rock sont avec toi. Trouvez votre passion. Et une fois que vous avez votre passion, sautez dessus et partez avec. Et tout ira bien.
Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?» au moment où on rend tout cela possible. « Pourquoi pas moi ?» le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter une figure emblématique du rock. Une personnalité que les Français aiment tant. Connaissant Philippe, personnellement, mon mari me pousse depuis plusieurs mois à l'interviewer. Même si je sais que c'est quelqu'un de très sympathique, j'avoue que j'étais un petit peu impressionnée, car c'est un monument. Un journaliste expérimenté, avec une vie absolument incroyable. Impossible d'aller dans le détail de ses 49 années de carrière, car, comme vous le savez, mes épisodes sont sans coupe et je ne voulais pas vous proposer 5 heures de conversation. J'ai réalisé aujourd'hui près de 20 interviews, mais une nouvelle fois, je sors de ma zone de confort et suis donc encore plus fière de vous présenter ce nouveau témoignage, qui, je l'espère, vous plaira et vous inspirera. J'ouvre une petite parenthèse, car si ce n'est pas encore fait, j'ai besoin de vous pour faire connaître Pourquoi pas moi. Comment ? En vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée, mais également en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aidera énormément. Et en plus, j'adore lire vos commentaires. Je referme la parenthèse. Philippe est reconnu comme étant l'un des plus grands critiques de rock. Il a été propulsé auprès du grand public car il a été à de nombreuses reprises animateur ou chroniqueur à la télévision ou à la radio. Philippe est également écrivain car il a écrit un certain nombre de livres comme notamment les biographies de Joe Starr ou Michel Polnareff. Vous l'aurez compris, la passion de Philippe, c'est le rock et toute sa vie a été guidée par sa petite voix. Je vous dis bienvenue dans l'univers de Philippe Manœuvre.
Bonjour Philippe.
Bonjour Charlotte.
Alors pour commencer, je te propose de nous parler de l'objet que tu as ramené pour te présenter, s'il te plaît.
Eh bien, c'est un disque vinyle 33 tours, un album des Rolling Stones, une compilation de leurs plus grands tubes des années 60, voilà, que j'aime bien. J'ai toujours non loin de la platine. Il est là, il est à côté de moi.
C'est un disque que tu as depuis longtemps ?
Oh là là, je l'ai acheté, je devais avoir 15 ou 16 ans, tu vois. Et donc, voilà, ça fait 50 ans qu'il est à côté de moi, non loin de la platine, et j'en suis très content.
ça va être du coup une bonne introduction pour que tu nous racontes où tu es né, qui était le petit Philippe ?
Eh bien, moi, je suis né dans la Marne, à Sainte-Menoux. Voilà, ville capitale de l'Argonne et capitale du pied de cochon.
C'est quoi l'Argonne ?
L'Argonne, c'est une forêt, c'est la forêt avant les Ardennes, il y a l'Argonne.
D'accord.
Voilà, c'est entre pas loin de Châlons-en-Champagne et de Reims. Ouais. Voilà, c'est les premiers contreforts. Et c'est un paysage un peu désolé, hein, où les gens sont rudes, des paysans très sympathiques. Voilà, et c'est là que j'ai grandi mes 12 premières années dans cette région. Puis après, je suis allé à la ville de... On a été s'installer à Châlons avec mes parents, Châlons en Champagne. Et puis j'ai fait mes études.
Ils faisaient quoi tes parents comme travail ?
Mon père était instituteur et ma maman était secrétaire médicale.
D'accord. Et donc, vous au début, donc tes 12 premières années, vous les avez passées à la campagne, si je comprends bien.
Voilà, on était à la campagne, voilà.
Et c'était quoi tes passions quand tu étais petit ? C'était
les bandes dessinées de Tintin, c'était éventuellement la musique. J'aimais beaucoup la musique, mais j'étais pas du tout, j'avais pas d'électrophone ni rien. J'aimais bien quand il y avait de la musique à la radio, j'écoutais, quoi, voilà. Et puis c'était bon, tu vois, des passions d'enfant, jouer avec des petits soldats, des petits chevaliers du Moyen-Âge, voilà, des choses comme ça. C'était pas rien de grave parce que c'était les années 60, c'était les 30 glorieuses, ouais. Tout allait bien, il y avait Claude François et Sheila à la radio qui chantaient Si j'avais un marteau, tout le monde était content, tout le monde était heureux, il n'y avait pas de chômage, il n'y avait pas de sida, il n'y avait pas de virus, tout le monde... Ouais. Vous voyez les lendemains qui chantaient, on avait battu les Allemands, tout allait bien, quoi. On était heureux.
On pouvait se promener dans la campagne, prendre son vélo sans avoir peur pour son enfant.
Oh là là, il n'y avait pas de serial killer, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien, tu vois. Ouais. On allait le soir acheter du lait à la ferme, on descendait, on marchait 2 kilomètres, on prenait le lait dans le petit pot en fer blanc, on remontait chez les parents, enfin personne, il n'y a jamais eu de problème de rien, quoi. C'était vraiment les années 60, très heureuses, dans un pays magnifique, avec très peu de pollution, enfin voilà, tout était, c'était magique.
Ouais. T'as des frères et sœurs ?
J'ai un petit frère, Laurent, qui a 2 ans de moins que moi.
Et du coup, à cette époque-là, tu te disais, quand je serai grand, qu'est-ce que je ferai comme métier ?
Rien du tout. Moi, j'étais heureux d'être le fils de mon papa, qui était instituteur du village. Tout le monde parlait de lui avec respect. Ouais. Voilà, c'est un peu, moi, j'avais pas, on n'était pas ambitieux. On ne nous avait pas inculqué l'ambition.
La non, mais sans ambition, ça peut, enfin, tu vois, ça pouvait être, ben, moi, je voudrais être jardinier. Ou, enfin, il y avait
non,
des.
Non, moi, j'ai jamais eu d'ambition. Je me voyais ni espion, ni James Bond. ni rien, parce que c'était la grande mode de James Bond dans les années 60, les premiers films arrivaient, c'était ça l'événement. Moi j'étais vraiment, non, j'étais très heureux, et puis un jour, j'ai entendu du rock, et là, j'ai vraiment, j'ai trouvé ça fantastique. Quoi. Là,
t'avais ça, quel âge ?
Oh, je devais avoir 14 ans. Ouais. En 68, hein, c'était mai 68, qui a glissé sur moi, toutes ces histoires de révolution, machin, truc. J'avais 14 ans, tu vois, j'écoutais
les Stones. J'étais
loin de Paris. Loin de Paris, j'étais très content comme ça, hein, voilà. Non, voilà, le rock arrive dans ma vie. J'achète un premier 45 tours, puis un deuxième, puis je trouve que c'est vraiment fabuleux de collectionner les 45 tours. Là, en ce moment, mon fils collectionne les Dragon Ball, ouais. les petites figurines Dragon Ball. Moi, c'était un peu ça, mais avec des 45 tours. Tu vois, j'aurais bien voulu avoir un disque des Kings, un disque des Beatles, un disque des Doors. Puis après, j'avais eu ces 3 disques et puis je me disais, oh là là, ça serait bien d'avoir un Rolling Stones. Puis après, j'avais 30, 45 tours. Je me disais, ça serait bien d'avoir un album. Enfin, voilà, on avait des vues très modestes sur le futur. Tu vois, on se disait, un jour, j'aimerais bien avoir une chaîne stéréo. Oh, voilà. Donc, c'est tout. On voyait pas plus loin. Hein. C'était.
Et tu jouais d'un instrument de musique ?
Mais oui, on m'avait inscrit au solfège, donc je faisais du solfège, je jouais de la flûte traversière, mais c'était pas très enthousiasmant, parce qu'on aurait voulu jouer de la guitare électrique, nous, à l'époque, mais ouais. Les parents, une guitare électrique, enfin déjà une guitare, c'était non, mais une guitare électrique, c'était même pas imaginable. D'abord, il n'y avait pas d'instrument de musique à Châlons. C'était quand même c'était une ville de 60 000 habitants, sans un magasin de musique, sans un magasin de disques. Il y avait la bibliothèque municipale où on pouvait aller lire des Tintins, des Spirou. Il y avait enfin des bandes dessinées, mais c'était tout, quoi, au niveau amusement. On avait le ciné-club et c'est tout, quoi.
Et collégien, lycéen, donc vous aviez déménagé à Chalon et t'étais dans le même lycée que Cabus,
Le lycée, on regardait ce lycée, on se disait, mais on connaît ce lycée alors qu'on venait d'arriver et tu parles qu'on le connaissait parce que il l'avait dessiné dans Les Aventures du Grand Duduche pendant des années. On avait lu les Aventures du Grand Duduche au lycée et c'était le lycée de Chalon qui était le modèle et même le surveillant général était toujours là comme dans la bande dessinée. Il ressemblait énormément. Donc, c'était assez spécial.
Et du coup, ça a été un des éléments, parce que je crois que tu adores la BD, comme tu disais quand tu étais petite, tu lisais Tintin.
J'adore la BD, parce que la BD, ça faisait partie des nouveautés pour les enfants des années 60. Avant, il n'y avait pas de bande dessinée. Nous, on a vu arriver Astérix, Blueberry, Valérian, toutes les grandes bandes dessinées Tintin était là. Waouh, c'était des choses, mais j'ai vu sortir des nouveaux albums de Tintin, tu vois, ouais. Tintin et Picaros, un nouvel album de Tintin, que c'était des événements majeurs, ou le nouvel album d'Astérix qu'on avait lu dans Pilote, page à page, toutes les semaines il y avait deux pages et à la fin il y avait l'album. C'était des moments incroyables où la pop culture naissait devant nous et où on nous demandait. À partir de 68, les parents ont commencé à s'intéresser à ce qu'on faisait. On a été reconnus comme les teenagers adolescents. Et donc, on était une classe respectable, déjà parce qu'on avait de l'argent de poche. Et que tu penses, on investissait notre argent de poche soit dans des films, soit dans des westerns, soit dans des. Il n'y avait pas du tout de films de science-fiction à l'époque. Nous, on rêvait de la science-fiction. On lisait des bandes dessinées de science-fiction, c'était très surveillé. Hein. Je me souviens, alors ça c'est une anecdote incroyable, en 67, il y a eu les premiers Marvel ont été traduits en français. Et au bout de 3 mois, ils ont été interdits. Ils ont été interdits par le gouvernement parce qu'ils trouvaient que les bandes dessinées Marvel, c'était trop bien dessiné et ça allait nous perturber le cerveau. Moi, j'avais lu les 3 premiers numéros du Surfeur d'Argent. J'adorais cette bande dessinée. Et d'un seul coup, ah non, c'est fini, c'est interdit. Alors, on est resté Captain Strange, le Surfeur d'Argent, les 4 Fantastiques. Terminé, c'était trop puissant. Enfin, aujourd'hui, il y a des films Marvel partout. Et j'en suis très content, mais c'était pas la même époque, tu vois. C'était quand même très surveillé. Enfin, c'était un général qui dirigeait la France. Rappelons son nom, le général de Gaulle, et il y avait des choses qu'on faisait pas en France, notamment se rouler par terre pendant les concerts. Johnny Hallyday avait été repéré comme un élément dangereux et ses fans étaient à surveiller du plus près, tu vois. C'était pas du tout comme aujourd'hui, on disait pas « Ah, c'est merveilleux, t'es Maya Nakamura, je vais t'acheter le disque, as-tu vu le clip ?» Aujourd'hui, il y a toute la culture est au service de l'enfance, de l'adolescence, des mouvements de jeunesse. À l'époque, pas du tout, tu vois.
Et ça, c'était quelque chose qui t'avait, toi, typiquement, quand les Marvel ont été interdits, c'est quelque chose qui t'a provoqué de la révolte ?
Mais non, parce qu'on n'était pas… On était consternés, voilà, comme disait Gainsbourg, on était plus consternés que concernés. On allait de consternation en consternation. Les Rolling Stones avaient les cheveux trop longs, Johnny Hallyday se roulait par terre, les Marvel étaient trop bien dessinés, c'était toujours trop, il y avait toujours quelque chose qui allait gêner. Alors, le seul truc qu'on avait le droit, c'était l'accordéon. Alors là, toute la France écoutait de l'accordéon. Aimable, André Verjuren, tous ces accordéonistes. Nous, on détestait l'accordéon, évidemment. On attendait
que… Tu préférais la guitare électrique ?
Il n'y en avait pas, quoi. Il y avait très, très peu. Moi, ma maman m'a emmené voir un concert de Michel Polnareff.
Oui, c'était la question que j'allais te poser, ton premier concert.
C'est en 1969. On va à la Maison de la Culture André Malraux à Reims, dans notre petite deux chevaux, mon père, ma mère, mon frère et moi, et on va voir un concert de Michel Polnareff. Et là, c'est l'absolue stupéfaction. J'avais jamais entendu un groupe de rock jouer à cette force, avec des amplis 100 watts. On est là, tout nous plaît. Michel Polnareff, il est dément, il est habillé en page. il est habillé tout en blanc, en satin, il a des lunettes miroirs, il a une coupe de cheveux à la Prince Vaillant. Enfin, on est saisi, quoi. On est admiratif, on est totalement, on est avec lui. En plus, c'est des gens qu'on notre âge, les chanteurs. Ils ont 20 ans, nous, on a 15 ans. On sent une relation. Alors, c'est marrant, cette anecdote, parce que souvent, je l'ai raconté à Michel Polnareff, comme on était allé voir ce concert, et à chaque fois, il me dit « Quoi ? Mais fallait venir me voir dans la loge !»
Parce que maintenant, vous êtes copains.
Oui, ouais. Bien sûr, on a travaillé ensemble pendant 2 ans pour écrire sa biographie. J'ai aidé à écrire, concevoir sa première biographie. Et donc, je lui racontais ça, il me disait « Fallait venir me voir dans ma loge !» Mais je lui dis « Mais Michel
!» Bah, ouais, après, il aurait fallu oser, mais c'est vrai que ça a dû être une fierté quand même pour toi, j'imagine, quand il t'a demandé d'écrire sa bio, sachant que c'était ton premier concert.
Oui, bien sûr que ça a été une très grande fierté. Mais ouais, Michel Polnareff, c'est un personnage fabuleux, incroyable, et on se parle de temps en temps, il m'appelle, voilà, on échange, on se raconte des blagues, on est une grande... capacité de, je sais pas, on s'entend bien, voilà.
Ouais, il y a un feeling. Et du coup, quand donc tu fais ton lycée, se pose la question de qu'est-ce que tu vas faire après le bac. T'es dans quel mood à ce moment-là?
Moi, je dis, je ne veux rien faire, laissez-moi, je vais passer votre bac, ok, mais tout ça, ça m'intéresse pas trop. Je voudrais rejoindre le monde de la musique.
Je voudrais travailler dans. C'est qui déjà?
Donc là, mes parents sont très très mal parce qu'on est à Châlons-en-Champagne, ils connaissent personne à Paris. Enfin, voilà. Le conseiller d'orientation les convoque en disant « Mais vous vous rendez compte que ce que veut faire votre fils, ça va pas être possible ?» Et je dis « Ouais, mais moi, je voudrais travailler à Rock & Folk. » Alors, les conseillers d'orientation disent « Mais vous connaissez quelqu'un à Rock & Folk, vous, à mes parents ?» Et mes parents connaissent personne, bien sûr. Ouais. Bon. Enfin, donc, après mon bac, il est décidé que je vais aller faire une école à Paris, une école et une université. L'école, c'est l'EFAP.
Ouais, c'est l'école qui existe toujours.
Des attachés de presse. Et l'université, c'est Tolbiac. Donc, à l'université, je fais de l'économie politique. Et à l'EFAP, je suis inscrit dans la section journalisme pour essayer de devenir journaliste.
Grâce ça, du coup, tu le fais en même temps?
En même temps, ouais.
D'accord.
Bon, mais très vite, je vais abandonner l'université parce que j'étais en économie politique et en fait, je m'étais trompé au début de l'année, j'étais en sciences économiques. Okay. Et à la fin du trimestre, on était 10 dans le même cas à suivre des cours qui ne nous serviraient à rien, qui ne compteraient pas pour les examens. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette blague? C'est ridicule, c'est pas possible. Mais c'est n'importe quoi l'université. Je rentre à l'EFAP, je vais rester juste à l'EFAP, je vais essayer de m'en sortir comme ça. Et l'EFAP, c'était une école formidable parce que en fin d'études, ils proposaient des stages. Ouais. Il y avait des stages. Et là, ils m'ont proposé un stage chez Citroën. Et donc, j'arrive chez Citroën, dans le 15e, quai André Citroën. Et là, quand je suis rentré dans la boîte, j'ai su tout de suite, mais tout de suite, que ça allait pas être possible, quoi. Tout ce que je détestais. C'était que des gens en cravate, avec des cheveux courts. Enfin bon.
On était loin de l'hiver, la musique et du rock.
Voilà, on était tellement loin du rock que j'ai même pas été dire à la réceptionniste « Je suis là, je viens pour un stage ». Je suis resté dans le hall pendant une demi-heure en me disant « Non, mais c'est pas possible ». Je rentrais chez moi et je suis resté chez moi 10 jours sans sortir en me disant « J'ai foutu en l'air mon année, ça va pas, etc. »
T'en as parlé autour de toi ?
Hein ? Donc,
t'as fait l'autruche ou t'en as parlé autour de toi en disant que
j'ai fait l'autruche. Et à un moment, j'ai deux copines qui sont passées de l'EFAP, qui sont venues chez moi me voir pour voir comment se passait mon stage, puisqu'elles me voyaient plus, que j'étais parti pour faire un stage. Donc, elles sont passées un samedi après-midi. Je leur dis, le stage, ça m'a pas plu. J'y suis même pas allé. Je suis là, ma vie est finie. J'ai foutu en l'air mon année. Et donc, les filles sont rentrées à l'EFAP et elles ont été voir la directrice des stages en disant « Philippe Manœuvre, ça va pas du tout, le Citroën, ça lui convient pas, trouvez-lui autre chose ». Et la dame des stages…
C'était une époque où on cherchait un stage. Parce que...
ouais. La dame des stages m'a rappelé au bout de 4 jours en me disant « Allô, monsieur Manœuvre, voilà, c'est le service des stages de l'EFAP. On vous a trouvé un stage à RTL. Est-ce que ça vous conviendrait ?» Et moi, j'étais là au bord du suicide. « Oh oui, je vais y aller. » Donc, je suis allé à RTL. Et là, ça s'est très bien passé parce que je suis arrivé pour passer 3 semaines et je suis resté 3 ans.
Génial.
Donc, le stage…
Tu t'es embauché direct après?
Hein? Non, mais j'étais pas embauché, mais j'avais un vague petit salaire et puis je travaillais la nuit à la rédaction, je faisais des dépêches, j'aidais aux dépêches. Enfin, voilà, j'étais multi-casquette, j'étais un véritable couteau suisse. Ouais. Et en plus, je parlais anglais. C'est ça qui était la grande… chose un peu surprenante pour l'époque, c'est que mes parents, en ayant assez de voir me heurter au problème de la langue anglaise au lycée, m'avaient envoyé passer 3 mois aux États-Unis pendant les vacances d'été, l'année avant le bac. Et donc, j'avais littéralement appris à parler anglais, mais couramment, quoi. Je parlais avec les… Évidemment, quand tu as 16 ans, 17 ans, et que tu es en Amérique, aux États-Unis, avec des enfants de… Il y avait 3 filles et un garçon dans ma famille. Tu parles, tu te mets au boulot, tu apprends à parler, mais à une vitesse folle, tu vois. Et donc, j'étais revenu fluent in English, avec un… qui était mieux que maintenant d'ailleurs, et je parlais couramment. À l'époque, les gens qui parlaient couramment anglais, il n'y en avait pas beaucoup, quoi. Donc, ouais, quand je suis arrivé à RTL, très vite, ça m'a servi, quoi. On m'a dit, au bout de 2 mois, Philippe Adler de la direction des programmes spectacles passe la tête et me dit… are you Philippe Manœuvre, the one who speaks English? Je lui dis, yes, I am. Follow me. Et donc, je vais dans son bureau. Et là, il me dit, les Who sont en tournée française pour RTL. Ils font une tournée avec nous. Personne ne parle anglais là-dedans. Eux, dans leur équipe, il n'y en a pas un qui parle français. C'est problématique. Voilà un billet de train. Tu rejoins la tournée à Cambrai. Et tu vas rester avec eux. Tu vas être l'interprète des Who pendant la tournée. Donc, ça a été… Alors là, ça m'a mis vraiment… j'étais avec un de ces mystérieux groupes de rock. Ouais. J'étais là avec eux. J'étais à l'intérieur du système. Je voyais comment ça marchait. Je les écoutais discuter entre eux, me parler à moi, me demander s'ils pouvaient avoir du thé. Ils n'étaient pas très compliqués, en fait. Ils voulaient juste du thé avant les concerts. Mais c'était inexplicable. Personne ne parlait anglais, quoi. Donc, ils avaient détruit une loge… avant Cambrai, je sais plus ce qu'ils faisaient, ils étaient en Belgique, ils avaient détruit tout parce qu'ils en pouvaient plus, ils disaient tea, we need tea, man. Et personne leur amenait du thé, donc il y avait du vin rouge, du coca, ils avaient tout pété. Donc à partir du moment où j'ai été là, ça s'est amélioré, leur relation avec le tourneur était meilleure, voilà, et donc
comme des enfants, quoi, comme des bébés quand tu arrives pas à les comprendre. Et
ils… ouais, bien sûr, c'était les Who. Puis moi, c'était des dieux, les Who, tu parles. J'achetais leurs 45 tours quand j'étais petit, donc j'étais là, je me disais, je me serais mis en 4000 pour les Who, quoi. Franchement, c'était des personnes que je respectais énormément. Donc j'ai tout de suite trouvé ma balance. Il y avait des dieux qui étaient les musiciens. Ouais. Moi, j'étais un intermède entre les dieux et les manants qui avaient les gens du commun qui n'avaient pas accès à la langue anglaise. Donc j'allais aider tout ce petit monde à se comprendre pour qu'ils fassent leur concert dans les meilleures conditions possibles. Et puis après, tout le monde a entendu parler de cette histoire, de ce gamin français qui avait accompagné les Who. Et j'ai été contacté par Rock et Folk, le rêve
super,
de ma vie.
Génial. Là, t'as, voilà. T'as réagi comment ce jour-là?
Ah ben là, j'ai pété un câble de bonheur. Quand Rock et Folk m'a commandé un petit papier, je me suis évanoui quelques secondes et puis je me suis réveillé tout de suite en disant « Allez, on y va ». Enfin, ça me donnait une bonne énergie. J'avais l'impression que j'étais là où je devais être. Que voilà, toute ma vie, j'avais attendu ce moment, j'allais enfin écrire sur le rock pour les lecteurs de Rock et Folk, qui étaient Alors, ils étaient 50 000 à l'époque en France, il y avait 50 000 lecteurs, c'était déjà pas mal. Et ça a été le grand décollage de Rock et Folk, parce que j'étais pas tout seul, il y avait toute une petite bande de jeunes de mon âge, il y avait Pierre Bonin, François Ducret, Philippe Garnier, enfin tout ça, on arrivait ensemble. Et j'étais en 74, et 10 ans plus tard, le journal se vendait à 150 000 exemplaires. On était devenus les chefs sur le marché. On taillait les croupières à Salut les copains, qui étaient en grande redescente parce que les yéyés n'existaient plus. Et ça avait été remplacé par le rock. J'étais avec les... J'étais pile poil dans la bonne mouvance, quoi. J'arrivais en aimant une musique qui fascinait toute la France, tous les gamins de France. Tout le monde voulait les Who, les Stones. Ne parlons pas des Beatles, qui étaient les dieux absolus, mais tout le monde voulait en savoir plus sur Led Zeppelin, sur des groupes qui commençaient, quoi, en même temps que nous. David Bowie a commencé en 73. À être connu en France en 73.
Ouais, donc tu les as vus grandir en même temps que leur succès.
Voilà, mais en même temps, alors je m'étonnais, je me disais, mais c'est incroyable, il m'apprécie énormément. En fait, aujourd'hui, je réalise que j'étais leur cœur de cible. Quand ils me voyaient arriver, ils se disaient, ils devaient bien rire, les Who, parce que les Who, ils étaient déjà canoniques, ils avaient 25 ans à l'époque, nous on en avait 17, mais on les idolâtrait comme des dieux, quoi. Ils ne pouvaient pas se tromper en rien, c'était les Who, quoi. C'était incroyable cette affaire, c'était des titans pour nous, quoi.
Est-ce qu'il y a encore des gens aujourd'hui que tu idolâtres comme t'as pu idolâtrer les Who quand t'avais 17 ans?
J'idolâtre toujours les Stones, Mick Jagger, Keith Richards, les Who, tous les groupes, tous les artistes de cette époque, de cette grande époque. J'ai beaucoup de respect pour les jeunes qui veulent essayer de jouer cette musique, faire ce métier, parce que ça va être de moins en moins facile aujourd'hui. Mais à l'époque, tous les gens que j'ai aimés, appréciés à cette époque, je les aime et je les apprécie avec le même respect, tu vois.
Ouais. Même en les ayant approchés, parce que parfois on se dit,
en les ayant approchés, parce qu'ils m'ont pas déçu. Quelqu'un comme Iggy Pop ne m'a pas déçu. Quelqu'un comme Nile Rodgers de Chic ne m'a pas déçu. Quelqu'un comme Christophe, le chanteur qui est mort récemment, ne m'a pas déçu. Je les ai tous trouvés exactement comme à leur image, parce que on a tous la même chose. Et c'est là où on a quelque chose en plus. On a cette passion dévorante pour la musique. Voilà. Ouais. Il y en a qui jouent de la guitare. Moi, je jouais de l'électrophone. Comme disait Charles Trenet, je joue de l'électrophone.
C'est quoi l'électrophone?
C'était un tourne-disque.
D'accord. T'étais DJ, en fait.
Je passais des disques dans les surbooms avec mes copains, mais on passait tous des disques dans les surbooms. C'était informel, c'était pas comme aujourd'hui. À l'époque, quand il y avait une surboom, il y avait un Tepaz, qui était les lecteurs de disques qu'on trouvait à l'époque. Et tout le monde venait avec ses 45 tours. On avait bien écrit notre nom derrière pour bien les retrouver au moment de se séparer. Et on passait tous des disques. Attendez, on va mettre ça. J'ai un slow. Faudrait un slow. Il y avait des séquences slow où tout le monde dansait le slow avec sa copine. C'était des grands moments. Puis après, on dansait le jerk, on dansait le rock. Enfin, voilà. Alors, ceux qui savaient danser le rock, on était les chefs, quoi. Voilà. Ouais.
Et qu'est-ce qui est donc après Rock and Folk, qu'est-ce qui s'est passé
Ils m'ont embauché à Rock and Folk. En même temps, je travaillais à RTL. Je faisais des petits boulots à RTL. Très vite.
À partir de quand t'as parlé du coup derrière le micro chez RTL?
Ouh, ça, c'est pas venu tout de suite. Non, c'est pas venu. Le micro, ma première radio, c'était à France. J'étais embauché à France Inter en 1981.
D'accord. Donc il s'est passé quelques années.
Tu vois, il s'est passé 7 ans, mais en 74, mes seules ambitions, c'est d'écrire mes articles, et c'est ce que je vais faire de 74 à 81. J'écris des articles sur le rock tous les mois, j'écrivais mais non-stop, parce qu'en plus, j'avais décidé d'en vivre, et c'était très mal payé, donc... Fallait en écrire de la copie pour avoir arrivé, je dirais, 700 francs, ce qui correspond à 100 euros aujourd'hui. Fallait écrire 60 pages. Alors, en même temps, ce qui est bien, c'est que ça m'a appris un truc, c'est à jamais avoir le blocage de l'écrivain. Moi, le blocage de l'écrivain, je peux pas le connaître parce que sinon, je vais avoir faim, tu vois. Si je reste en moi sans écrire, parce que je suis bloqué et que je trouve pas les phrases, bah, je gagne pas un centime à la fin du mois. Donc, le
blocage. Parce que du coup, à l'époque, t'es pas salarié. C'est en gros, tu t'es payé à la pige.
Je suis pigiste.
Ouais. Donc, hyper précaire.
Ben oui, hyper précaire, mais heureux, vraiment, parce qu'on est toute une bande comme ça. On est, voilà, puis on est, et puis à l'époque, on partage tout avec nos copains, tu vois. On est, s'il y en a un qui est invité chez sa grand-mère, je me souviens après un festival, on était allé au festival d'Orange, on était toute une bande, on était six. Il y en a un qui dit, moi, ma grand-mère habite à 60 km d'ici, allons déjeuner chez ma grand-mère. Alors, on est arrivé à 7 chez la grand-mère qui était formidable, qui a dit, bon, ben, j'avais prévu des petites côtes d'agneau, mais enfin, on va partager tout ça. Enfin, c'était à la bonne franquette, mais c'était formidable. Puis après, on l'a aidé, on a fait un peu de jardinage, un peu de trucs, puis on a repris notre route, on est allé chez un autre copain, puis après, on rentrait à Paris. Enfin, c'était, on pouvait avoir des grandes béances qu'on peut plus avoir aujourd'hui avec le téléphone, les réseaux, les moyens de communiquer. Aujourd'hui, on est toujours on top, tu vois, tout le temps cornaqué, tout le temps en réseau, en liaison, en truc. À l'époque, tu pouvais disparaître 4 jours, 5 jours, personne ne demandait où t'étais, ouais. Tu vois, ni tes parents, ni rien. Enfin voilà, on menait notre vie, on allait chez des copains. S'il y avait à boire, on restait. S'il y avait, voilà, on était là. Et bon, ben moi, c'était vraiment ma passion, c'était la musique, la musique. C'est-à-dire que ça m'a beaucoup aidé tout autour de ma vie, parce que c'est un monde où il y a beaucoup de drogue, il y a beaucoup d'alcool. Les musiciens aiment bien faire la fête. Il y en a qui sont des toxicos invétérés, etc. Donc, de les fréquenter, ça peut être très dangereux. Et il y a beaucoup de mes jeunes collègues de l'époque qui sont tombés dedans, comme on dit, qui sont devenus soit des dealers de drogue, soit des toxicos invétérés, soit des gens… enfin. Ils allaient voir un groupe en se disant, va y avoir un truc à fumer. Moi, ça a jamais été mon opinion, ma façon. Tu vois, moi, j'allais voir un groupe parce que j'étais fanatique de leur disque. J'allais enfin les rencontrer.
C'était pas le mode forcément le mode de vie, mais c'était la musique, quoi.
Voilà, moi, c'était la musique. Alors, s'il y avait un coup à boire, ok, je buvais une bière avec eux, j'étais très content. Ouais. On m'invitait à dîner après. Alors, en plus, comme les critiques rock, on était vraiment une toute petite corporation et on parlait tous anglais. Tout le monde avait parlait anglais. Et donc, souvent, les attachés de presse des maisons de disques parlaient beaucoup moins anglais que nous. Donc, quand ils avaient des artistes comme Santana, Blondie, les Sex Pistols, ils disaient, vous viendriez pas dîner avec nous après le concert? Parce que eux, ils se disaient, qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire? Je parle pas un mot d'anglais. Ouais. Donc, ils invitaient 2 ou 3 critiques rock. Et nous, on faisait la conversation. Tu parles, on était là, dîner avec Blondie, dîner. Alors, je me souviendrai toujours Santana. Il nous avait fait une prière avant le dîner. On n'avait jamais vu. On était chez Bofinger et le manager dit, maintenant je vous demande tous de faire le silence car Carlos va faire une prière au Tout-Puissant. Et donc à l'époque, tous les critiques rock, on avait envie de rire et tout, mais ils étaient tellement sérieux, c'était tellement leur vie, ils étaient dans le yoga, et etc.
Bon,
donc on était ouvert. On était ouvert, on était compréhensif. Souvent, les groupes nous demandaient des choses. Une fois, j'étais avec les Lynyrd Skynyrd. C'était un groupe où il y avait 3 guitaristes. C'était des Texans. Ils étaient hyper, hyper sauvages. Et il y en a un, il me dit, je voudrais acheter un béret. Il voulait acheter un béret basque, parce que c'était au Texas. C'était quand t'étais bohème, tu pouvais avoir un béret. Donc, je l'ai emmené au Bon Marché. Je suis arrivé au Bon Marché avec tous les Lynyrd Skynyrd. Bonjour, madame, on voudrait acheter un béret. C'était des moments hilarants. Blondie, après son concert à Paris, elle voulait aller sous la Tour Eiffel. Elle voulait aller faire une photo d'elle sous la Tour Eiffel. Donc, on déjeunait à Bastille, on est reparti à la Tour Eiffel. Donc moi, j'étais dans les voitures avec eux, j'essayais de dire à gauche, à droite, je ne conduisais pas, mais j'accompagnais tout ce petit monde. On a été sous la Tour Eiffel, on a fait des photos de Blondie sous la Tour Eiffel, puis elle est rentrée se coucher. Et moi, après, j'étais avec l'attaché de presse qui me ramenait à la maison, me déposait là en me disant « Bon, bah merci, t'as super assuré. » Et oh, ils ont passé une très bonne soirée.
Et à cette époque, toi, tu vivais… Enfin, j'imagine que c'était hyper grisant comme vie, mais est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit…
Moi, je vivais dans une chambre de bonne à Bastille, rue Jean-Boustire, à côté de chez Beaufinger, de la brasserie Beaufinger. Et donc, j'étais dans ma chambre de bonne. J'étais au 7e étage, il n'y avait pas d'ascenseur. J'avais 15 mètres carrés. J'avais ma machine à écrire. J'étais là, je travaillais, je tapais des papiers pour Rock & Folk. J'allais à RTL faire mes petits boulots. J'étais loin d'être grisé, tu vois. Ouais. Tout ce que je gagnais, une fois, je me souviens, à RTL, j'avais travaillé toute une nuit pour faire des photocopies, parce qu'il y avait un discours, il y avait eu un journal inattendu avec Valéry Giscard d'Estaing, qui était le président de la République, donc il avait fallu photocopier, renéoter, agrafer, donc j'avais gagné 140 francs de bonus. Immédiatement, je me suis précipité au puce de Clignancourt pour acheter des bottes en serpent, tu vois. voilà, on voit plus loin, quoi.
Et d'ailleurs, en parlant de ton look, ce qui fait partie de ton look, c'est tes lunettes noires. C'est quelque chose qui apparaît
quand ? J'avais pas les lunettes à l'époque. Ça, les lunettes, c'est dans les années 80. À partir du moment où je fais les enfants du rock à la télévision, c'est là où je mets des lunettes noires parce que, voilà, j'ai les yeux fatigués. Je trouve que ça fait un personnage, ça crée un personnage. Mais je les mettais sporadiquement dans les années 70. C'était moins souvent.
Et maintenant, c'est quotidien ?
Non, maintenant, je les mets pour toutes mes apparitions, quand je vais aux grosses têtes, quand je fais une télé, quand je fais des choses. C'est mon personnage, c'est mon look. Ça fait 50 ans que les gens me voient comme ça. Enfin, depuis les années 80, 40 ans que les gens me voient avec des lunettes noires. Donc, sans les lunettes, ils ont du mal à me reconnaître. Donc, voilà, c'est une très bonne chose.
Et d'ailleurs, dans ton personnage, il y a aussi ta voix qui est hyper reconnaissable et singulière. C'est quelque chose qui a toujours été reconnu comme singulier et comme étant un plus, notamment à la radio et à la télé.
Oui, c'est une voix, c'est ma voix, elle est comme ça, elle monte dans les aigus, elle est changeante, amusante, dynamique. Très vite, à partir des années 70, j'ai entendu dire qu'il y avait des gens qui m'imitaient. À l'époque, c'était dans l'industrie du disque. Hein. J'étais pas connu du tout. J'étais pas passé à la télévision une fois ou deux en tant que fan. On m'avait interviewé en tant que fan à chaque fois, quoi. Voilà, parce que très vite, un jour, quelqu'un m'a arrêté dans la rue en me disant « Est-ce que vous aimez la musique rock ?» Je dis, ah oui, bien sûr. Est-ce que vous accepteriez d'être dans une émission de télévision pour interviewer Alan Stivell? Oui, bien sûr, pas de problème. Donc voilà, je me suis retrouvé à la télé comme ça.
C'était un total hasard, la personne ne savait pas du tout que tu étais critique rock.
Ouais, non, oui, voilà. À l'époque, j'étais pas critique rock. Hein, c'était en 75, janvier 75, ouais. Donc j'ai écrit mes premiers articles en juin 75, tu vois. Donc, c'était je trouvais que j'avais le look de l'emploi, quoi. Voilà, ouais. Les cheveux jusqu'aux épaules, j'ai les cheveux très longs pour l'époque. Tu parles, j'habitais plus chez mes parents, donc premier truc, je m'étais dit ça y est, je me laisse pousser les cheveux, que j'ai laissé pousser jusqu'en 77, parce que quand le punk est arrivé, alors là, il a fallu se recouper les cheveux pour avoir un look plus rock'n'roll punk à la mode des Clash ou des Sex Pistols. Les cheveux courts étaient revenus, on arrêtait les cheveux longs.
Et du coup, première intervention, donc tu disais où tu avais à la télé, où du coup tu as parlé et ta voix était.
Oui, mais les gens, bon, voilà, les gens ils se disaient, bon, tu vois, les gens, ça n'a pas arrêté les choses. J'avais une voix comme ça, c'était rigolo, ça passait, c'est tout. Mais après, franchement, cette idée, moi j'ai toujours eu cette idée que j'étais venu pour la musique, j'étais venu pour le rock, j'étais venu pour aider les rockers, les gens qui faisaient cette musique. Et donc, quand il y avait des problèmes de travail ou quand il y avait des gens qui fumaient trop de pétards ou quand il y avait trop d'alcool, chaque fois, je me suis arrêté en me disant, T'es pas venu pour ça, t'es pas venu pour prendre de la drogue, t'es pas venu pour fumer des pétards, t'es venu pour aider les Stones, les Who, Led Zeppelin, les Troggs ou les Dogs, enfin tu vois, les petits groupes comme les plus gros, c'est ça ta fonction, ne l'oublie pas. Donc moi, elle était là, ma petite voix, tu vois. Je me souviens, j'avais un rédacteur en chef à l'époque, Philippe Paringot, à Rock & Folk, qui était important pour moi, et souvent, je lui disais ici, et ça, il me disait, est-ce que c'est bon pour le rock? Est-ce que ce dont tu me parles, c'est bon pour ce que tu veux faire là, c'est bon pour le rock ou pas? Si c'est bon pour le rock, fais-le. Si c'est pas bon pour le rock, ça sert à rien. Et il nous avait formés comme ça, quoi. On était les commandos, on était les rockers, on voulait servir à quelque chose d'utile pour le rock. Après, j'ai vu plein de journalistes qui étaient là pour les cadeaux, qui étaient là pour les voyages à l'œil, pour des choses comme ça. Mais moi, c'était pas ça, quoi. J'étais content de prendre l'avion pour aller à New York interviewer REM ou voir Nirvana à Seattle ou voir Kiss à Los Angeles. Bien sûr que j'étais content, c'était génial, mais c'était la partie du boulot, les voyages, ok. Mais l'important, c'était de rencontrer les géants du rock et de leur poser mes questions pour faire avancer la connaissance du rock qu'on avait.
C'est super intéressant parce qu'en effet, tu vois, dans les différentes personnes que j'ai interviewées, je pense notamment à Cyril Després qui a gagné 4 ou 5 fois le Paris-Dakar en moto et qui fait partie des stars du sport mécanique au niveau mondial. Et il me disait que lui, clairement, bon, oui, il était bon, mais le petit truc en plus, c'est qu'en fait, il gagnait pour lui, il gagnait pas pour battre les autres ou pour la notoriété ou pour l'argent. C'était vraiment un truc lui avec lui-même. Et clairement, dans toutes les personnes que j'ai interviewées qui ont réussi, ils disent tous que la préoccupation première, c'est en effet, c'est d'avoir du sens et c'est pas la notoriété, l'argent ou en effet, c'est...
Mais jamais. Mais moi, l'argent, j'en ai jamais eu. J'ai jamais eu. Vraiment, l'argent m'a fui. Chaque fois que j'avais un peu d'argent, les impôts étaient là pour me le récupérer. J'ai jamais eu, franchement, d'argent, tu vois, avec un A majuscule. Ouais. J'ai attendu 62 ans pour m'acheter une petite ferme avec ma femme. Et c'est une idée de ma femme. Moi, j'y aurais jamais pensé, tu vois. Et aujourd'hui, je la remercie tous les jours. On a une toute petite ferme avec un petit jardin. J'ai pu ranger tous mes disques là-dedans, etc. Mais moi, jusqu'à 62 ans, je n'ai acheté que des disques. Des disques. J'ai 20 000 disques chez moi. Bon, voilà, je sais ce que j'ai fait de mon argent. C'est mes disques. J'en suis content. Je les écoute, je les aime. C'est mon bonheur. Parce que pour moi, la musique, c'est soit en concert, mais c'est aussi les disques, c'est aussi les œuvres enregistrées. Et puis, c'est voir comment les gens vont à la rencontre du public, comment ça se passe, comment il y en a qui réussissent tout, il y en a qui ont de la baraka, il y en a, il faut les aider, il y en a, il faut expliquer, il y en a, ils avaient besoin des critiques rock autant que nous, on avait besoin d'eux, quoi. Tout le monde, voilà, c'est un jour, c'est marrant parce que j'étais avec la maman de Slash, le guitariste des Guns N' Roses, et la maman de Slash, je la connaissais depuis longtemps, parce qu'au début, elle était avec David Bowie, c'est elle qui faisait les costumes de Bowie, donc j'avais rencontré plusieurs fois et tout. Et elle m'aimait beaucoup. Et Slash lui dit, qu'est-ce que tu fais avec un critique? Et lui a dit, je te prierais de changer d'avis à propos des critiques, parce que c'est les critiques qui vont écrire ton histoire, c'est pas toi. Franchement, c'était une jolie leçon, quoi. Oui, c'est nous qui avons écrit leur histoire, c'est nous qui avons écrit, j'en veux la preuve, que chaque fois qu'il y a un grand de la musique qui disparaît, on nous appelle, qu'est-ce qu'on doit en penser, qui
c'est. Ouais, c'est fou, moi, ça, c'est un truc qui m'a frappé de me dire qu'à chaque fois qu'en effet il y avait quelqu'un qui disparaissait, en tout cas dans le rock, c'est toujours toi qu'on appelle aujourd'hui.
Oui, parce que les gens, parce qu'ils savent que je suis très respectueux des musiciens, j'essaye de rendre hommage en expliquant ce qu'ils ont pu apporter, et des fois, ça rentre même, enfin, quand on raconte ce qui s'est passé au début du rock, les gens sont incrédules, c'est plus des choses qu'on pourrait faire aujourd'hui, quoi. On a réussi à développer une utopie au milieu d'une société matérialiste, on a réussi à développer une utopie créative qui n'obéissait qu'à ses règles. Et les règles étant définies par nous, les critiques. C'est nous qui disions, attendez, à partir de oui, mais... Enfin, voilà, on cherchait la petite bête, on était là pour dire bravo, c'est très réussi, mais je me pose des questions, est-ce que ça va durer, est-ce qu'il y en aura d'autres. Enfin, voilà, on était là pour être un peu la, les Jimmy Neal Cricket de ce grand délire rock'n'roll, quoi.
Ouais.
Et donc, moi, j'ai un peu... quand j'ai eu des coups durs... je me suis dit le rock ne m'oubliera pas, le rock est là.
C'était quoi du coup tes coups durs?
Et ben l'enterrement d'une copine très chère que avec qui j'avais passé beaucoup de temps, qui était une de mes meilleures amies de tous les temps quoi. Et bon, elle est morte, elle avait une sclérose en plaques, elle est morte, elle a été foudroyée. J'ai été à son enterrement, franchement, j'en menais pas large parce que tu te poses des questions, tu te dis elle avait le même âge que moi. Etc. Et je rentre chez moi, j'ai pas la force d'aller à mon bureau, je reste là, tu vois. Et en fin de journée, le téléphone sonne et on me dit les Rolling Stones vont reprendre la route. Est-ce que vous iriez à Toronto pour partir après-demain, passer 3 jours à Toronto avec les Stones? Et là, tu te dis, ma copine est arrivée au ciel, elle a fait bouger les choses. Elle savait que ça me ferait complet.
Ça me donne des frissons.
Et ben du coup, je suis parti faire les Stones à Toronto et c'était en 1995 et en remerciant ma copine d'avoir intercédé là-haut et voilà, ça m'a aidé à traverser un cap très difficile. Je ne dois pas tout au rock, j'ai un peu des qualités personnelles, j'ai envie d'être bon dans ma partie, tu vois, j'essaye d'être le meilleur quand j'écris un article, de faire quelque chose de super, de me dire qu'est-ce qu'on peut faire.
Ouais, t'as un petit côté perfectionniste?
Voilà. Ouais. Voilà, j'aime bien quand c'est bien fait, quand c'est réussi, parce que quand t'es critique, tu as tendance à voir le fil blanc, les coutures, comment ça a été fabriqué, etc., etc. Donc, quand t'es critique, t'as tendance à tout de suite dire, tu vas voir là où le bas blesse, ou le petit bout de la lorgnette, le mauvais côté des choses. Donc, j'ai essayé de garder des facultés d'émerveillement, pour pas devenir un vieux critique qui est là, le vieux du Muppet Show, tu vois, les deux vieux du Muppet Show, c'est moins bien que la semaine dernière, ils l'ont déjà fait, s'ils ont repris un vieux truc. Là. Bon, ça, c'est une possibilité, on peut vieillir comme ça quand on est critique. Mais après, il y avait beaucoup de gens qui me disaient, mais enfin, qui êtes-vous? Que faites-vous? Et à un moment, j'ai vu un film qui s'appelle All About Eve, qui est un vieux film en noir et blanc, et dedans, il y a un critique. Et c'est un critique de théâtre. Et à un moment, on lui pose les mêmes questions. On lui dit, mais enfin, qui êtes-vous, monsieur? Et il répond, je suis un rouage essentiel de l'industrie du spectacle. Je suis le critique. C'est moi qui envoie des gens à vos spectacles. Ou pas. Et ça m'avait fasciné. Et je me suis dit, donc, tu viens de plus loin que tu ne penses. Dès le 19e siècle, il y avait des gens qui faisaient le même métier. Et après, je me suis renseigné sur Théophile Gautier, sur tous les grands critiques, Baudelaire. Théophile Gautier, en toute modestie, je ne suis pas arrivé à la chimie de Baudelaire, mais tu te renseignes, tu vois, tu lis des livres, moi j'ai appris mon métier un peu comme ça sur le tas, avec des copains qui disaient, oh, dis donc ton article c'est vachement bien, enfin voilà, on avait des maîtres en matière de critique rock, c'était les Anglo-Saxons, les Américains, ils étaient allés beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que nous, et donc on les surveillait du coin de l'œil, on regardait ce qu'ils faisaient.
Tu t'inspirais et tu refaisais à ta façon à toi.
Voilà, on avait inventé, dès qu'il y a eu le Gonzo aux États-Unis, nous, on a embrayé, mais dans la semaine qui suivait, on n'a pas réfléchi 107 ans en se disant, est-ce qu'on va le faire? Est-ce que on partait dans toutes les utopies amusantes en se disant, mais oui, c'est bien, nous aussi, on a, le Gonzo, c'est le journaliste qui intervient, le journaliste qui descend de son piédestal d'observateur pour devenir un acteur. Donc Hunter Thompson, il avait inventé ça pendant une tournée où il suivait les candidats à la présidence des États-Unis. Un jour, il y a McGovern qui dit à Hunter Thompson, je ne sais plus quoi faire. Et Hunter Thompson lui dit, moi, à votre place, voilà ce que je ferais. Et là, il sort clairement de son rôle d'observateur. Il est en train de donner des conseils à un candidat à la présidentielle qui suit son conseil. Et il en fait tout un article en disant, à partir de là, blabla, etc. Donc, nous, on s'est dit, mais on va faire la même chose avec les groupes. Bien sûr, nous aussi, on pourrait leur donner des conseils, leur dire ce qu'on attend, ce que nous disent les lecteurs. À l'époque, il n'y avait pas tous les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les groupes, c'est très facile pour eux. Ils savent ce que pensent les gens en temps réel. S'ils ont fait un clip qui n'a pas plu parce qu'ils avaient un pantalon de la mauvaise couleur, ils vont le savoir sur Twitter dans les 10 secondes. Nous, à l'époque, c'était des processus très lents. On disait, je crois que votre pochette a pas plu. On a reçu pas mal de courriers de lecteurs indignés, etc. Ouais. Ça met très longtemps à revenir aux artistes, les réactions des gens. Aujourd'hui, c'est instantané. Voilà. Ouais. Donc moi, j'étais dans ce monde. Et puis à un moment, comme je collaborais à Metal Hurlant et à Rock et Folk, Pierre Lescure a créé Les Enfants du Rock et il s'est dit que ça serait bien que Philippe Manœuvre en fasse partie. Donc, je me suis retrouvé dans l'aventure Enfants du Rock. France Inter m'avait demandé de faire une émission. Donc, je faisais une émission. Donc, moi, c'est vraiment le rock qui m'a porté partout, quoi, qui m'a ouvert les portes. Je pense que, et en même temps, aujourd'hui, je réfléchis, je me dis, tu parles, à l'époque, les disques de Neil Young, ils se vendaient à 2 millions d'exemplaires en France. Donc, les gens se disaient comment savoir, il y avait les critiques rock qui étaient là, quoi. On était des personnages contactables, connus, disponibles et, voilà, tout s'est fait comme ça. Donc, en même temps.
Et t'as eu des rêves au fur et à mesure de ton expérience? Il y a eu des moments où tu t'es dit, par exemple, je sais pas, où tu t'es dit, tiens, ça, je rêverais de faire partie de cette émission radio.
Bon, alors ça, non, parce que moi, on m'a tout proposé. Donc, si tu veux, ça me.
Il y a tellement de choses qu'on t'a proposé, dont tu avais rêvé.
J'avais mon émission de radio, Les Grandes Manœuvres sur France Inter, 2 heures tous les après-midi. Donc, j'avais 24 ans. Donc, c'est incroyable. C'est incroyable. Je suis très heureux de tout ce qui m'est arrivé, les Enfants du Rock. Après, j'étais sur Canal Jimmy. Je pense que j'ai été, le rock est devenu la musique principale des années 80. D'un seul coup, le rock a tout balayé, le rock a explosé. On avait fait du bon boulot, on avait travaillé dur, on avait donné du bonheur et de la joie à plein de gens, on avait respecté les mouvements de jeunesse. Et à un moment, c'est devenu colossal, quoi. Bon, alors après.
Juste quand on t'a proposé, du coup, de faire l'émission Les Grandes Manœuvres, est-ce qu'il y a un moment où tu as eu peur en disant, est-ce que je vais en être capable?
Pas du tout, mais pas du tout, parce que moi, je me disais, c'est bon pour le rock. Tout ce que je demandais, c'est est-ce que je peux moi-même choisir la programmation de mes disques? Est-ce que je peux passer du hard rock? Est-ce que je peux passer du métal? Est-ce que je peux passer du blues? J'avais envie de repousser les limites et j'ai toujours essayé de les repousser. D'ailleurs, je me souviens, ma première émission de radio, j'ai été convoqué tout de suite à la direction de France Inter. On m'a dit, c'est très bien, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez fait une émission parfaite, vous avez passé tout ce qu'on attend de vous et à la fin, vous avez mis un morceau de Frank Sinatra. Et donc, je dis, oui, parce que Frank Sinatra, pour moi, c'était le gangster originel, quoi. C'était le gangsta, c'était l'homme qui avait l'oreille de la mafia. Et ça avait beaucoup choqué mes patrons à France Inter, quoi. Ils disaient, on n'aurait jamais pensé qu'on avait invité un jeune de 23 ans à faire une programmation, qu'il allait passer Sinatra. Parce que pour eux, Sinatra, c'était Square, c'était un truc de blaireau, quoi. Pour moi, j'avais déjà compris que ça allait au-delà de ça, quoi. sans me vanter, quoi. Mais, quand j'ai rencontré Iggy Pop et les Stooges, Je suis tombé de mon fauteuil en découvrant que leur artiste préféré de tous les temps, c'était Frank Sinatra, pour les mêmes raisons que moi, quoi. Parce que c'était le gangster originel, parce que c'était pas un chanteur n'importe quoi, c'était un bonhomme qui s'était pas laissé faire et qui avait utilisé la mafia, quoi. Charlotte, pardon, attends, il faut que je rebranche mon ordi parce que là, j'ai presque plus de batterie.
D'accord, vas-y, vas-y.
Voilà.
Pardon. Voilà, et voilà. Et à partir de quand tu as quitté ton 15 mètres carrés et que ta situation financière sans non plus avoir de l'argent avec un grand A,
Quand j'ai été aux Enfants du Rock, bien sûr, parce qu'à partir du moment où tu es à la télévision, tu gagnes beaucoup plus d'argent que quand tu es à la presse écrite. Et donc, j'étais aux Enfants du Rock et là, j'ai pu prendre un petit appartement rue Monge que je louais, donc j'étais très très fier parce que j'étais au quartier latin, quoi. D'un seul coup, j'étais plus à la Bastille, j'étais au quartier latin. C'était mon bonheur absolu d'être rue Monge, au-dessus d'un marchand de piano en plus, donc c'était vraiment formidable.
Et tes parents, pendant tout ton parcours, comment, parce que bon, au début, j'imagine qu'ils ne devaient pas être hyper rassurés. Ou peut-être pas. En fait, comment ils ont vécu tes débuts et puis la suite?
Mes parents, ils l'ont très bien vécu. Ils m'ont fait une confiance absolue. Ils étaient persuadés que j'allais y arriver, que j'étais un bon fils. Ils savaient j'étais venu pour la musique et pour essayer d'aider les musiciens. Ils trouvaient ça très très bien et ils ont suivi mes progrès petit à petit, quoi. Mais il y a eu beaucoup de parents à cette époque qui ont été très ouverts comme ça. Je voyais quand j'allais chez mes copains, on était toute une génération on avait décidé qu'on s'habillerait différemment, qu'on aurait les cheveux longs ou de couleur, ou qu'on mettrait du vernis à ongles noir si ça nous faisait plaisir, ou si David Bowie en lançait la mode. Voilà, on était les enfants du rock, littéralement, quoi.
Et ça les perturbait pas plus
Ouais, qu'est-ce que...
Non, mais c'est chouette, hein, parce qu'on peut imaginer.
Non, c'était magnifique, c'était génial. Mais j'ai connu beaucoup de familles où ça s'est passé comme ça, hein. Les parents de Pierre Benoît, mon copain, c'était pareil. Ils m'invitaient régulièrement à dîner, ils nous regardaient, on était des martiens, tu vois. Enfin bon, voilà. Et puis après, il y a eu... Franchement, mais à partir des années 80, bon, bah, on est intégré, on est dans le cadre, on fait avancer la musique, voilà, et c'est reconnu, quoi.
Ouais. Et dans les choses significatives, en tout cas pour le grand public, il y a, moi d'ailleurs, personnellement, je crois que je t'ai connu comme ça, c'était avec La Nouvelle Star.
Oui, bien sûr. Bah, La Nouvelle Star, quand on me l'a proposé, ça faisait 3 ans que j'organisais des concerts au Gibus avec des petits groupes qu'on appelait les.
C'est une boîte de nuit, hein.
Oui, voilà, le Gibus, c'était une ancienne boîte de nuit punk, et j'organisais des concerts tous les vendredis soirs de 8h à minuit avec 3 groupes de bébés rockers. Il y avait les Nast, les Bébés Brunes, les Bratz, les Second Sex, les Plasticines. Enfin bon, en veux-tu, les prostitutes, enfin tous ces gamins formidables qui voulaient faire de la musique, ils avaient besoin, il fallait quelqu'un pour gérer, ne serait-ce que pour dire tel groupe, telle semaine. Enfin, voilà, les gens du Gibus m'ont dit, ouais, est-ce que vous pourriez vous en occuper? Donc j'ai dit, je veux bien le faire une fois par mois, puis ils m'ont dit, ah ben non, c'est toutes les semaines. Puis je l'ai fait pendant 3 ans, et ça a eu un retentissement fabuleux. Parce que déjà, il y a des nouveaux artistes qui sont sortis de là, comme les Bébés Brunes, qui ont vendu 350 000 disques. Il y a eu une espèce de petite commotion. Il y avait soudain une nouvelle génération rock qui tapait à la porte. Enfin, voilà, il y avait... Et du coup, mon nom était associé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si bien qu'à un moment, La Nouvelle Star m'a appelé en me disant « Ce que vous faites au Gibus, c'est-à-dire choisir des gamins en leur disant « Toi, tu peux le faire. Toi, tu peux monter sur scène. Toi, tu peux faire un concert. » On vous demanderait de le faire. Est-ce que vous accepteriez d'être membre du jury? Waouh! Et il me proposait ça. Il me disait, ça serait une nouvelle équipe avec Sinclair et Lio. Donc, j'aimais beaucoup les deux. Ouais. Et André Manoukian, que je connaissais bien. Donc, c'était formidable. Et j'ai accepté de le faire. Et du coup, alors ça a été un très gros scandale. Il y avait des gens qui disaient « mais il trahit le rock, c'est pas possible, on ne peut pas faire ça ». Et puis en même temps, il y avait des gens qui étaient très contents qu'il y ait un rocker à la télévision pour parler de musique, quoi, pour dire « bon, attendez, moi je ne voyais pas ça comme ça » ou « tel chanteur, c'est pas ça » ou « moi je sens que là, il y a quelque chose qui pourrait donner quelque chose de grand ». Enfin voilà. Ouais. Donc, bah, cette nouvelle star, oui, ça a été trois bonnes années, formidable, une belle aventure.
Ouais, ça a été un vrai. Du coup, c'est à partir de là où ta notoriété auprès du grand public a vraiment grandi.
Le grand public, il me connaissait depuis les Enfants du Rock, en fait.
D'accord.
Quand on faisait.
C'est notre génération, du coup.
Voilà. Il y avait une génération qui me connaissait. Qui m'avait vu présenter les premiers clips de Michael Jackson, de Prince, de Madonna, de ZZ Top, et donc ils savaient, tu vois. Et donc, d'un seul coup, j'avais à la fois ces anciens et leurs enfants qui venaient au Gibus et qui après, tout le monde en France m'a redécouvert à travers la nouvelle star. Oui, c'est ça.
Une nouvelle génération.
Et une nouvelle génération, voilà. Ouais.
Et là, pareil, dans ce qui t'a fait connaître au niveau du grand public, c'est les grosses têtes, enfin, continuer en tout cas, les grosses têtes.
Oh oui, là, ça a été encore plus fort, quoi, parce que, bah, si, c'est les mêmes chiffres. Enfin, la nouvelle star, ça faisait 4 millions de gens qui regardaient, et puis après, ça s'est arrêté au bout de 3 saisons. Ce qui est, à mon avis, c'est difficile de faire plus de 3 saisons. Hein. J'ai une grande admiration pour ceux qui, comme André Manoukian, qui a fait 8 saisons. Je ne sais pas comment il a fait, parce que il y a un moment où on est vraiment, c'est pas très rigolo tous les jours. Hein.
Pourquoi?
Parce qu'il y a une lassitude qui s'installe. La première année, waouh, c'est fabuleux, c'est super, c'est génial, c'est que de la découverte. La deuxième année, il faut refaire la même chose. Et la troisième année, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Est-ce que c'est pas possible? C'est un cauchemar, c'est un jour sans fin, etc., etc. Bon, les grosses têtes, c'est totalement différent parce que c'est une émission où il y a du comique et il y a de l'instructif. C'est une émission où on apprend des choses en s'amusant. Et donc, Laurent Ruquier m'a demandé de rejoindre les grosses têtes. J'étais mais stupéfié. Je me disais, bon, mais qu'est-ce qu'ils peuvent me trouver? Quel intérêt? Et puis, en fait, ils avaient besoin de quelqu'un qui connaisse la musique parce qu'il y a tout le temps des questions musicales qui se posent et que la musique est devenue un moyen incontournable de relier les gens. Je trouve la musique, ça, c'est vraiment bon. Donc, moi, je suis un peu un spécialiste de musique. Je peux parler en tout cas du rock et Ruquier et son équipe avaient besoin de ça, je pense. Ils avaient besoin de quelqu'un qui puisse leur parler. Les Stones ont fait ceci. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est grave? Est-ce que un tel est mort? Qu'est-ce qu'on peut en penser? Enfin voilà, tout était. Ça coulait de source et puis c'était sympa pour moi à 62 ans d'être réclamé quelque part. Enfin, mais c'est incroyable, quelle carrière, parce que c'était juste au moment où j'ai pris ma retraite, j'ai fait un livre sur le rock et je suis allé faire la promo aux Grosses Têtes et une semaine après, Laurent Ruquier m'a appelé en me disant « Philippe Manœuvre, nous vous demanderions bien de rejoindre les Grosses Têtes si ça vous fait plaisir, blablabla ».
Le livre sur le rock, c'est celui où tu fais un petit peu ton autobiographie?
Non, c'était le livre d'avant. C'était un livre qui s'appelait Collector et où il y avait juste des disques que j'aimais bien et que personne connaissait. Je m'étais dit, voilà, faut parler de ces disques inconnus, méconnus. Et voilà, bon, donc ça s'est passé comme ça, le plus simplement du monde. Et puis au bout de 3 ans, je me dis, mais ça fait 3 ans que je suis aux Grosses Têtes, c'est incroyable, quoi, voilà.
Et donc là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, ça fait 3 ans que tu y es.
Oui.
Et du coup, tu y es à quelle fréquence?
Une fois par semaine.
Alors, donc, du coup, les chroniqueurs varient toutes les semaines?
Tous les jours, il y a une équipe, on est une trentaine. Ça va de Chantal Latsou, Bernard Mabie, Jean-Philippe Janssen, notre regretté Pierre Bénichou, il y a Christine Bravo, il y a Isabelle Mergaux, il y a beaucoup d'acteurs de théâtre, il y a beaucoup de comiques, il y a des jeunes comiques comme Artus. Parfois, on a Laurent Deutsch qui joue en grosse tête. Parfois, on a un académicien, Marc Lambron. Donc, il y a tout un peu toute la palette culturelle qui se retrouve réunie aux grosses têtes, là. Et oui, et donc, il y a des gens très, très drôles, comme Baffy. Il y a des gens, quand ils ouvrent la bouche, tout le monde hurle de rire. Moi, c'est pas le cas. Donc, moi, je suis obligé j'essaye de répondre à un maximum de questions et puis j'essaye surtout d'être là sur la musique, quoi, voilà.
Ouais. Et tu disais que tu avais pris ta retraite parce que quand on entend ce que tu fais en ce moment, entre la radio, le fait que tu écrives encore un livre, ça ne s'apparente pas vraiment à la retraite en mode voilà, je ne fais rien. C'est quoi la retraite pour toi?
C'était de quitter Rock & Folk, dont j'étais devenu rédacteur en chef au fil du temps. J'étais rédacteur en chef de Rock & Folk pendant 27 années. Et ça, à un moment, moi, je me sentais plus de diriger une équipe de 25 journalistes, faire partie des grosses têtes. Oui, diriger une équipe de 25 personnes avec tout ce que ça peut comporter, de disputes, de dire attention, de dire attends, c'est moins bien, ou si on faisait ça, d'expliquer sans arrêt des projets à des gens qui n'ont pas trop envie, parce que il y a une bureaucratie qui s'installe vite dans un journal, et moi j'essayais de lutter contre ça, et les employés du journal, c'est des bureaucrates, hein, ils aiment pas trop, enfin bref. À un moment, ça m'a épuisé, et je me suis dit, fatigué comme je suis, je risque de faire une erreur. J'ai pas le droit de faire ça. C'est pas mon journal. C'est pas moi qui l'ai fondé. Je les ai beaucoup aidés. J'ai beaucoup écrit. J'ai passé la moitié de ma vie dans ce journal. Mais il faut que je rende le gouvernail à quelqu'un de plus jeune, de plus disponible, qui aura envie de s'investir. Voilà. Et donc, je suis parti en retraite.
C'est chouette d'avoir eu cette prise de conscience parce que t'as quand même beaucoup de gens qui s'accrochent, s'accrochent.
Mais ça, c'est insupportable. Moi, j'ai toujours pensé un seul truc, place aux jeunes, laissons les jeunes faire. Et je pense que ça irait bien. La société, elle a besoin de jeunesse, elle a besoin qu'on entende la jeunesse, qu'on lui demande ce qu'elle pense, qu'on la laisse faire un petit peu, quoi.
Ouais. Et aujourd'hui, du coup, bon, on peut dire que t'es une personne publique. Comment tu le vis, le fait que les gens dans la rue te reconnaissent
Eh ben, tu sais, à un moment, j'étais allé voir un monsieur qui tire les tarots et il avait tiré les tarots. Il m'avait dit, mais en fait, toi, t'auras jamais aucun problème avec personne parce que pour les Français, t'es celui qui a amené la musique. Donc, il me dit, c'est une chose formidable, la musique. Donc, pour les Français, t'es, ah oui, le rocker de la télé, ou, ah oui, c'est vous le rock, ah oui, les inrecuptibles. Alors, j'ai travaillé à Rock & Folk, mais bon, il est associé au rock, et moi, ça me va très bien quand les jeunes me reconnaissent, ils disent, ah oui, c'est vous le rocker de la télé, bon, voilà, récemment, j'étais dans un supermarché en province, quelqu'un m'a dit, monsieur, vous faites ma journée. J'aurais jamais pensé rencontrer une grosse tête chez Grand Frais. Je suis tellement heureux. Je vais passer une tellement bonne journée grâce à vous. Tant mieux. Bravo. C'est super. Tu vois, ça n'a rien changé à mon attitude dans la vie. Mais je me dis, ça me rend drôlement content pour les autres. Je me dis, c'est génial. Tu vois. Oh ben tant mieux si on m'avait dit un jour que ça ferait plaisir aux gens de me voir. Tant mieux, quoi. Bon.
Ouais, c'est un plaisir simple que tu peux leur offrir simplement.
Ah oui, voilà. Ouais. Essayer d'avoir un sourire, d'être toujours de bonne humeur, faire un selfie. Mais oui, il n'y a pas de problème. Voilà. Ouais. Donc, voilà. Après, tu vois, c'est pour tout le monde pareil. Il faut plus se gratter le nez en public. Faut être toujours bien coiffé, si possible, avec beaucoup de prestance, comme on attend d'une personne publique, mais voilà, c'est rien d'autre, quoi.
Et par rapport à tes enfants, parce que tu as une fille qui a plus de 30 ans,
Oui.
Et tes enfants plus petits, donc qui ont 8 et demi et 2 et demi, 3, 3 même maintenant, ouais. Pour eux, parce que j'imagine que du coup, pour l'aîné, ça n'a pas du tout être pareil que pour les deux derniers.
Ben si, le fait que tu... Le problème, c'est les enfants qui voient leurs parents passer à la télé régulièrement. Ça crée quelque chose de difficile pour l'éducation. C'est dur, ça donne à tes enfants le sentiment qu'ils font partie d'une élite. Et ça, c'est un truc qu'il faut combattre, mais non-stop, en disant stop, c'est pas bien, ça ne sert à rien. Enfin, tu vois. Autant ma fille aînée, à une époque, elle allait en boîte de nuit, on m'avait rapporté qu'elle disait « je suis la fille de Philippe Manœuvre, laissez-moi rentrer tout de suite sans faire la queue ». Quand on m'a rapporté ça, je peux te dire qu'on a eu une sacrée conversation, parce que je lui ai dit « mais moi, une fois, tu m'as entendu dire quelque part « je suis Philippe Manœuvre ». Non, jamais, 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 j'aurais osé, tu vois. Donc, comment toi, tu peux en arriver à dire « je suis la fille de Philippe Manœuvre » et à demander qu'on te laisse rentrer au bain-douche sans faire la file d'attente, non quoi, non. Ça m'avait été rapporté par deux personnes et j'étais obligé de lutter contre ça. Si tu veux, toute position amène des avantages et des inconvénients. Oui, c'est chouette d'être reconnu au supermarché, bravo, vous avez fait ma journée. L'inconvénient, c'est que tes enfants, te voyant à la télé de temps à autre, se disent il fait partie des chefs, on n'a plus de problème, on est des stars. Débile, où tu dis, mais faut lutter contre ça tout de suite, hein, sinon vous allez être très, très, très malheureux, hein, parce que les fils d'eux, c'est pas la position la plus facile au monde. Et ma fille, je suis très heureux qu'elle se soit établie à Los Angeles. Même si c'est un peu loin pour se voir toutes les semaines, mais elle a son boulot, elle fait son job, et personne ne sait qui est Philippe Manœuvre à Los Angeles, donc la fille de Philippe Manœuvre vit une vie totalement normale là-bas.
Ouais. Dans l'univers de la musique ou pas du tout ?
Elle est dans le cinéma, la mode, et les shootings, elle travaille, elle est location manager, elle trouve des endroits pour les tournages. C'est trouver et de surveiller les tournages, etc. Elle a un portefeuille de 800 endroits différents. Tu peux avoir, tu sais, des tournages, ils ont besoin d'un bar, ceci, d'un coiffeur à l'ancienne, d'une villa de stars. Elle a tout ça en stock et tous les jours, elle travaille sur des feuilletons, sur des shootings photos, voilà, donc ça lui convient très bien parce que ça change tous les jours et elle a besoin d'un travail comme ça, elle supporte pas la routine et donc voilà, c'est très bien, elle est très très bien, très heureuse, donc tout va bien.
Bon, tant mieux. Et dans les choses qu'on t'a demandé, parce que finalement ça a été hyper varié entre la télé, t'as même fait une apparition au cinéma.
Oui, on joue mon propre rôle. Hein.
C'était dans Bus Palladium.
Voilà, absolument. C'est un film qui racontait donc l'histoire d'une aventure d'un groupe de rock autour d'une boîte de nuit, le Bus Palladium. Et à un moment, tout le monde disait, ça serait bien s'il y avait un critique rock qui venait vous voir. Philippe Manœuvre. Et du coup, j'arrivais dans mon propre rôle, quoi. Tu vois, donc rien. Là, c'est pareil. C'était pas très difficile à faire d'être au bar avec un verre en faisant pas mal. C'est tout. Enfin, j'avais quatre mots à dire. Et c'était un honneur incroyable. J'étais très, très, très honoré de participer à cette petite aventure Bus Palladium. Ouais.
Tu as la voix off dans un jeu vidéo.
Et dans Paul, l'extraterrestre, une histoire d'extraterrestre qui fume des pétards et qui se retrouve sur notre planète. Paul, alors ça, c'est là où vraiment il y a beaucoup de gens qui ont été très heureux que je fasse Paul, la voix de Paul. Voilà.
Et du coup, dans tout ce qu'on t'a demandé, c'était quoi les trucs les plus fous où tu te serais dit pourquoi pas moi, mais tu n'y croyais pas vraiment ?
Alors, le plus fou, ça a été le Stade de France. Quand on m'a demandé de présenter un spectacle au Stade de France, là, je me suis dit oh là 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 là, mais j'étais perplexe, quoi. Je me suis dit, mais je ne suis pas chanteur, je ne suis pas guitariste. Je me retrouvais leader du groupe Rockin' Mill, 1000 musiciens amateurs sur la pelouse du Stade de France. Waouh! Et donc, j'étais inquiet parce que je me suis dit, mais je ne suis pas Mick Jagger, je ne suis pas Jean-Louis Aubert. comment on va remplir le stade? Et c'était ma seule question. J'ai dit aux gens du Stade de France, mais vous voulez mettre combien de gens dans le stade? Ils m'ont dit, si on arrivait à avoir 30 000 spectateurs, c'est la première, on serait fou de bonheur. Donc, je me suis dit, bon, OK, on va essayer. Et en fait, les gens étaient 50 000. On a eu 50 000 spectateurs.
C'était l'été dernier, hein?
C'était le 29 juin dernier, 2019. Et ça a été une fête incroyable. C'était une claque monumentale d'être là, de présenter un spectacle devant 50 000 personnes. Et puis, c'était un spectacle dans lequel je m'étais investi. C'est moi qui avais fait la liste des titres. C'est moi qui avais un peu travaillé sur la scénographie, comment j'allais intervenir et tout. Donc, j'étais partie prenante. J'étais plus un spectateur. Là, j'étais vraiment dedans, quoi. J'étais le présentateur du show. Et que ça soit un tel succès, que ça se passe tellement bien, que ça soit, c'était bon, ben voilà, là. Et j'ai, encore une fois, j'aurais vraiment pu avoir la surtout que c'était la première. Il n'y avait pas de modèle. On n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais fait ça. Donc, ma femme m'a dit, mais t'inquiète donc pas, les dieux du rock sont avec toi.
Elle est mignonne.
Et c'est exactement ce qui s'est passé, quoi. Voilà, c'était, j'avais un job à faire. Donc, dans ces cas-là, inutile de te dire, hein, on est au taquet, le doigt sur la couture du pantalon, on écoute, on essaye de donner le meilleur de ce qu'on a, bien sûr. Hein, ouais. C'est pas un truc anodin, quoi.
Et là, du coup, la deuxième édition devait avoir lieu en juillet, je crois. Bon, forcément, ça ne va pas avoir lieu en juillet.
C'est reporté à 2021.
D'accord.
On fera ça l'été 2021 et on se vengera. Ça sera encore plus fou, encore plus fort, encore plus nombreux. On va dépasser, battre notre record. Voilà, c'est tout. On est persuadé que ça peut continuer, devenir une grande fête rock annuelle, parce que les gens ont besoin de nouveaux événements, de choses qui s'étaient jamais faites encore, et ça, c'en est une, et on le fera, voilà. Et puis, pour les musiciens qui participent, c'est un moment pareil, c'est un moment incroyable. Ouais. Quand t'es un musicien amateur, t'as rangé ta guitare, t'as pas joué depuis 10 ans, puis tu la ressors, et tu te dis, je vais aller jouer cette fois au Stade de France. Et en plus, en jouant du rock, tu vois, qu'est-ce qu'on joue, des morceaux de Deep Purple, des Beatles, des Clash, de Nirvana. Enfin, voilà, c'est du pur rock, quoi. C'est pas du rock dilué à 80%, là, c'est du rock à 110%. Et donc, c'est merveilleux, quoi. C'est un truc, c'est une histoire de tous les gens qui l'ont vécu sont sortis de là transformés.
Ce qui est fou, c'est que on peut se dire, ok, t'as fait ta vie, en tout cas professionnelle, t'as fait un nombre de choses de dingue, et que finalement, là, c'était sortir de ta zone de confort, et on en revient toujours au même schéma qui est, tu sors de ta zone de confort, t'as un peu peur, et puis après, t'es hyper fier parce que ça a marché, quoi.
Ouais, et je sors de ma zone de confort et je me pose la vieille question de mon vieux rédacteur en chef. Je me dis, est-ce que ça va faire du bien au rock?
Ouais.
Le Stade de France, je savais que ça ferait du bien au rock, que ça ferait parler du rock, qu'au moment où il y a le hip-hop qui est en train de gagner, on allait reparler d'un spectacle rock, que le Stade de France, dans notre métier, c'est le sommet absolu, parce que nous, tu sais, le rock, c'est un métier pyramidal, où il y a un numéro un, il y a etc., etc., et donc le Stade de France, c'est considéré comme le top du top, et je me suis dit, les gens qui vont participer à ça, ils vont apprendre à jouer les morceaux. Et tous les musiciens me disaient, mais si on avait su que c'était aussi simple de jouer ça comme ça, etc., waouh, les tutorings, c'était fabuleux, on va repartir dans nos groupes, on va faire de la bien meilleure musique. Donc moi, je suis très content de ça, de participer à quelque chose qui aide les musiciens à apprendre des morceaux, à les jouer tous ensemble, à prendre une pêche incroyable, et ça fait du bien au rock, voilà. Donc je suis heureux de le faire. Il y a beaucoup de choses que j'ai refusé des trucs en me disant ça servira à rien, c'est pas là, j'en parle jamais, mais j'ai pas accepté tout ce qu'on m'a proposé toute ma vie non plus. Il y a des choses, j'ai dit ah non, désolé, ça va un peu loin pour moi, je me sens pas, notamment je refuse tous les ans de faire un certain nombre de publicités parce que je sais que ça va faire de la peine aux gens. Je ne peux pas participer à des pubs, je ne fais pas de publicité. J'ai fait une publicité dans les années 80, je m'en excuse toujours. Je n'avais pas compris les réactions des gens, c'était douloureux pour eux. Vous avez abdiqué, vous faites de la pub, etc. Alors, je sais que Bachung a fait de la pub, Gainsbourg a fait de la pub, mais je ne suis pas Bachung, je ne suis pas Gainsbourg, je ne fais pas de pub, je fais pas ça aux gens qui ont placé leur confiance en moi. Je te cache pas que des fois, je vois passer des cachets pub, on parle en centaines de milliers d'euros, je me dis, mais t'es malade.
Et ta femme, elle te soutient là-dessus?
Elle a très bien compris ça, elle-même, elle est dans la musique, elle sait... elle travaille dans une maison de disques majeure, mais elle sait les problèmes des jeunes groupes, elle sait l'image du rock. Voilà,
vous avez vraiment ça en commun.
On a ça en commun, la musique est notre grande passion et nos enfants et puis aussi parce que ouais, Candice, elle m'aide, elle m'aime pour moi-même, elle sait ce que je peux faire, elle croit en moi, elle me donne des très bons conseils, voilà, on forme un couple heureux et on élève des enfants et c'est ça la grande bataille.
Et on a l'air très heureux pour les connaître un petit peu.
Écoute, oui, on essaye qu'ils soient épanouis, mais là, tu vois, je voulais les mettre au piano cette année. Bon, j'ai pas osé faire venir un accordeur de piano en plein confinement. Là, maintenant, je me dis, bon, je vais peut-être pouvoir faire accorder le piano, mais est-ce que je vais oser faire venir un prof de piano? Enfin, on vit des heures très difficiles, comme on n'a jamais vécu, tu vois. Tout est difficile. C'est là maintenant que la partie commence. C'est maintenant que le déconfinement ouvre. C'est là qu'il va falloir apprendre les gestes et ne pas faire la bise aux gens qu'on aime bien, ne pas prendre des métros. Si on voit arriver une rame bondée, bah dire je monterai dans la prochaine. Si on voit arriver un bus bondé, se dire bah je vais y aller à pied. Voilà, ça va être plein de réflexes comme ça, plein de puis d'espérer que ça tombe pas sur nous, quoi, parce que après c'est une question de chance. Et après on peut pas, tu vois, Allah Akbar comme disent les autres. Voilà, on verra bien.
Si le petit Philippe de 6 ans te regardait, qu'est-ce que tu penses qu'il dirait?
Il dirait, ben dis donc, t'as les cheveux plus courts. non, mais voilà, je sais pas ce qu'il dirait. Je pense qu'il dirait, t'as une jolie collection de disques, bien joué, bravo, voilà. Mais il est toujours, je le revois quand je regarde mon fils, je regarde mon fils courir comme un fou dans la maison, je regarde mon fils s'exciter en passant ses petits 45 tours, parce que pour Noël, mon fils, je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux pour Noël? Il m'a dit, je voudrais un lecteur de disques et je voudrais des disques des Beatles. Voilà.
Génial.
Et donc, je lui ai offert un coffret avec les 25-45 tours des Beatles. Et son préféré, c'est « I want to hold your hand ». Il me le chante à tue-tête. Voilà. Donc, quand je regarde mon fils, je me dis « Eh ben, eh ben ouais. ». Les chiens font pas des chats.
On dit que qui dit choix dit renoncement. Quels ont été les tiens, du coup, durant toute ta vie?
Renoncement… Moi, j'ai renoncé à l'alcool. Je ne bois plus une goutte d'alcool depuis 20 ans. J'ai arrêté le nouvel an de l'an 2000. Donc là, on est en 2020. Donc ça fait 20 ans que j'ai pas bu une goutte d'alcool parce que c'était trop facile. Parce que c'est quand t'es dans le rock, n'importe où t'arrives, tu dis on se ferait bien un petit Jack Daniels et puis trois bières par-dessus, puis une vodka, et puis d'un seul coup il est 6h du matin, à quatre pattes dans le caniveau, on dit ah, elle était bien rock'n'roll cette soirée. Bon. Mais sauf que la plupart des gens, c'est leur soirée rock'n'roll, et pour moi il faut que j'en ai 365 dans l'année. Et à un moment, oui, j'étais ivre-mort 364 soirs par an, et donc je me suis... Comme les gens s'interdisent de casino, moi je me suis auto-interdit d'alcool, sans passer par la case cure de désintox. J'ai évité ça, je me suis désintoxiqué tout seul chez moi et en prenant beaucoup de vitamine C pour essayer d'arrêter l'alcool. Et puis j'ai arrêté l'alcool et j'ai jamais repris. Et donc ça, c'est une grande fierté. Ça, c'était.
Tu peux surtout avoir arrêté tout seul.
J'ai été aidé. Je connaissais une dame, une vieille duchesse très méchante qui m'avait dit « Tu n'arriveras pas à arrêter le monde du rock, c'est le sexe, la drogue et l'alcool. Tu n'arriveras pas à t'en sortir. » Et ça m'a donné la force. Je me suis dit « Je vais te montrer, tu vas voir. » Et souvent, je lui ai écrit, je lui ai envoyé un petit mot en disant, vous voyez, ça fait 10 ans que, grâce à vous, je ne veux pas. Puis après, on n'a plus trop communiqué, mais voilà, ça m'a fait. Ça, c'est des petites baffes dont on se souvient dans les moments, tu vois. Mais en même temps, j'avais cette volonté. Je me disais, bon, allez, ça va, quoi. T'as assez picolé, t'as picolé comme un rat pendant 20 ans. Stop, quoi.
T'as eu ton stock annuel.
Voilà.
Ouais. C'est fini. Et du coup, maintenant, c'est pas trop dur, même à l'époque, parce que quand t'arrêtes de boire, mais que t'es dans un univers où tout le monde boit.
Oui, tout le monde boit, mais bon, ce qu'il faut voir, c'est que là, maintenant, on est dans un univers où il n'y a plus que les survivants et tout le monde a bien compris. Tu vois, quand même les Rolling Stones, Mick Jagger, il boit pas. Ronnie Wood, il a arrêté de boire. Charlie Watts, il n'a jamais bu. Il reste plus que Keith Richards qui m'a dit qu'il avait arrêté le whisky et la vodka, qu'il ne buvait plus que des bières ou un verre de rouge par-ci, par-là. Donc, même eux ont été obligés parce qu'à un moment, les forces déclinent et ça, comme on dit vulgairement, ça se voit sur ta tête que tu as fait la fête la veille. Et moi, je voulais pas, j'en pouvais plus. Donc, je me suis arrêté tout seul et c'est ma grande fierté, voilà. Mais la grande fierté, c'est d'avoir pu, au jour le jour, continuer à ne pas boire dans un monde où, effectivement, ça paraît pas du tout incongru pour un rédacteur en chef d'un journal de rock d'avoir une bouteille de whisky sur son bureau. Dire, bah oui, il est dans le rock, c'est des rockers, voilà.
Donc ça, tu as été soutenu parce que je vois, tu as des personnes. Alors moi, j'ai pas forcément l'exemple de l'alcool, mais je pense plus à l'exemple de la cigarette, où tu as des copains qui sont vite tentés, allez, prends-en une, vas-y.
J'ai été soutenu parce que mes copains m'aiment et que vraiment, ils m'ont dit arrête. Un jour, c'est un de mes copains qui est venu me voir et qui m'a dit Philippe, arrête. Tu n'es pas Slash de Guns N' Roses, tu n'es pas Lemmy de Motorhead, il faut que tu arrêtes, tu vas mourir si tu continues. Et c'est un de mes plus vieux copains et je me suis dit, mais il a raison, là, quelque part, il a raison et ça m'a donné la force de continuer à arrêter, voilà. Donc j'étais soutenu. Oui, bon, bah des fois il y a des gens qui disent, bon, évidemment après il y avait Johnny Hallyday qui disait, ouais, mais regardez-moi ce rocker en carton bouilli, il boit même plus une goutte d'alcool. Bon, mais on en rigolait ensemble. Johnny aussi, s'il avait pu s'arrêter de fumer, il serait encore avec nous. Hein, voilà. Ça aussi, ces 3 paquets de gitane par jour, ça a pas été à l'arrivée, ça s'est mal passé, hein, bien sûr. Ouais. Que tu veux faire. Mais en même temps, Johnny, c'est un garçon timide. C'est quand même bizarre de dire ça. Mais avec le bordel qu'il a foutu, le chaos qu'il a instauré, mais c'était un garçon timide. Et il n'aurait pas eu la cigarette, il n'aurait rien fait. Il s'appuyait sur sa cigarette comme sur un bâton, tu vois. Quelqu'un arrivait en lui disant, tu ne fais plus la fête de l'Huma. Il allumait une cigarette. Quelqu'un rentrait dans la pièce en disant, hey, tu vas faire le Stade de France. Il allumait une cigarette. C'était son truc toute la journée. Voilà, on a fait une tournée américaine ensemble et il avait loué un avion privé pour pouvoir fumer entre les décollages et les atterrissages. Enfin, c'était sa passion, quoi. Voilà.
Ah. Ouais, c'est. Après, il y en a qui préfèrent vivre comme ils ont envie toute leur, enfin, le temps qu'ils ont, plutôt que faire attention.
Mais dans sa position, il pouvait pas faire autrement. Et l'alcool, la cigarette, c'est vrai qu'il était un peu le chef du rock en France et voilà, il en est mort. Voilà, ouais. Donc ça, c'est triste. C'est triste de voir des copains, des gens qu'on a aimés ou des amis, quoi, partir. Serge Gainsbourg, qui était un ami, bon, ben, pareil, hein, cigarette et alcool ont eu raison de lui, hein, voilà, faut pas se leurrer. Hein.
Et toi, de quoi tu es le plus fier aujourd'hui ?
Bah, je te dis d'avoir arrêté l'alcool, ouais. D'avoir fait le Stade de France avec mon fils et ma fille et qui regardaient, qui étaient là dans le public. Ça, c'était un moment de grande fierté, bien sûr. Mais je suis fier aussi d'avoir fait les Grosses Têtes, depuis 3 ans aux Grosses Têtes. J'en suis hyper fier. Enfin voilà, parce que moi, je vois le bonheur de tout ça, quoi. C'est magnifique, c'est génial d'avoir créer ce personnage tout seul, quoi. J'ai créé un petit bonhomme, un petit personnage qui a l'énergie, la patate, la pêche et qui donnera tout pour la musique. Bon, bah, c'est un joli petit personnage, voilà. C'est une fierté, tranquille. C'est pas, tu vois, je me lève le matin, je me dis, oh! Quand je me vois dans la glace, je me trouve affreux, mais après, bon, voilà, je me dis, c'est sympa aussi, ce petit personnage de Feldman. Pour les gens, c'est une bonne présence, voilà.
Quand on te voit, on se dit, il a l'air sympa et on n'a pas peur d'aller te parler. Et c'est de cette façon, voilà. Ça correspond à ce que tu disais tout à l'heure. Oui. Il y a un truc qui m'avait frappé. Je t'avais vu chez Ruquier un soir là, cet hiver. Bah, c'était le jour de l'anniversaire de Lily. Et tu disais que tu remerciais Laurent Ruquier parce que il t'avait permis de faire la promotion de ton livre, ton autobiographie, et t'avais expliqué que bah, grâce au fait d'être passé pour en faire la promotion, ça t'avait permis d'augmenter tes ventes de façon significative.
Eh oui.
Mais j'avais trouvé ça super chouette parce qu'en fait, je me suis dit, c'est tellement rare d'avoir des personnes qui ont un niveau de notoriété comme le tien, de dire merci et comme ça, j'ai trouvé ça super chouette.
Et bien ça, c'est les enseignements de Serge Gainsbourg, tu vois, parce que Gainsbourg, la première fois que j'ai fait une interview de lui, c'était en 1979 et il venait de faire son disque reggae et je lui ai dit, ça va cartonner. Il n'était pas sûr et puis en fait, ça a cartonné. Et après, quand l'interview que j'avais fait de lui est parue, une semaine après, il m'a appelé pour me dire « Merci, c'est super, je suis très content de cette interview ». Je lui dis « Mais c'est incroyable, Serge Gainsbourg, vous appelez Philippe Manœuvre pour me remercier, mais c'est fou !» Il m'a dit « C'est la seule loi dans l'industrie du spectacle, quand quelqu'un te rend un service, décroche ton téléphone et dis « Merci ». Et ça m'a toujours frappé. Et donc, Laurent Ruquier, il sait que je l'apprécie et que j'aime travailler avec lui, mais je trouvais normal de lui dire merci pour mon livre. C'est grâce à lui parce que il en avait fait une petite affaire. Voilà, il m'a invité dans 2 émissions à lui, Les Enfants de la télé et On n'est pas couché, et ça a lancé le bouquin parce que après ça, Yann Barthès voulait que j'aille chez Quotidien, Thierry Ardisson voulait que j'aille chez lui, tout le monde, ça a fait une pelote de neige, ouais. Ilanouna, etc. Donc, je me suis retrouvé à faire toutes les télés et le bouquin s'est vendu à 50 000.
Super.
Donc, c'est super. Quand tu écris un livre, la plupart des gens, ils espèrent en vendre 800. Là, quand tu vends 50 000, tu dis mais alléluia, c'est tellement bien. C'est pas parce qu'on va toucher plus d'argent, c'est parce qu'on se dit mais 50 000 personnes, tu vois, ça, ont lu mon livre, l'histoire de ma vie, donc voilà, ça fait plaisir. Voilà.
C'est
donc,
une belle reconnaissance.
Bah il faut.
Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes que tu rencontres aujourd'hui qui te disent que tu as eu de la chance ?
Non, j'ai pas eu de chance. J'avais la foi dans le rock'n'roll. Voilà, je trouvais que cette musique était magnifique. Elle décrivait une nouvelle époque. Il y avait des instruments qu'on n'avait jamais entendus, comme la guitare électrique qui arrivait en même temps que le rock. Il y avait des dieux noirs comme James Brown ou Jimi Hendrix, des gamins blancs comme les Rolling Stones ou les Beatles ou David Bowie. Enfin voilà, il y avait des gens qui méritaient tout notre respect. Et moi, j'ai toujours trouvé ça triste quand je lis l'histoire de les histoires, comment Mozart a été enterré dans une fosse commune, comment Jean-Sébastien Bach avait des problèmes avec son maître de chapelle. Enfin, je me dis, mais c'était des tels titans, des gens qui ont tellement apporté, ça aurait été bien que leur vie soit meilleure. Et moi, je suis heureux si j'ai pu aider qui que ce soit à trouver quelques spectateurs ou à faire sa musique. Voilà, ça me suffit, moi. Je suis là, j'ai fait mon boulot, c'est tout, c'est bien, quoi.
Ouais. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne et que, du coup, tu aimerais donner ?
Un conseil? Non, parce que Gainsbourg m'a donné tous les bons conseils. S'il y en a que j'ai pas eu, il avait tous les bons conseils. Mais il disait, quand on te rend service, faut dire merci. Voilà, il m'a dit aussi, il faut jamais refuser un autographe. Il m'a donné 2-3 conseils comme ça, importants. Moi, je sais pas, j'ai envie de vous dire, trouvez votre passion. Et une fois que vous avez votre passion, sautez dessus et partez avec. Et tout ira bien. Mais il faut trouver votre passion. Ça peut être de conduire un poids lourd, ça peut être de faire du sport, ça peut être de faire de la plongée sous-marine, de l'apnée, du yoga. Mais trouvez votre passion. Et normalement, tout découle de là, quoi. On est des êtres humains, donc on est des gens passionnants. Et on est fait pour être passionné, passionnel. Et si on trouve sa passion, on l'enfourche, même à cru, même sans mettre la selle, même sans apprendre. Et tous les gens avec qui il y a des gens avec qui ont suivi ça dans leur vie. Et voilà, on n'a pas besoin de longs discours. On sait qu'on est pareil. C'est ça le rêve pour un être humain, en fait. Voilà, faut trouver sa passion.
Ouais, et puis pas hésiter à y aller, même si, enfin, de toute façon, on est des êtres humains, donc on a appris à marcher, je sais plus, on fait 18 000 pas avant de savoir vraiment marcher, et c'est savoir se dire, ok, je sais pas faire au début, mais j'essaye, j'apprends, et puis de toute façon, tout le monde apprend en faisant, en fait.
Voilà, absolument. Et puis, la passion, ça doit nous guider, il y a pas assez de gens passionnés, vous voyez. Il y a trop de gens qui regardent leur téléphone. Est-ce que c'est passionnant, le téléphone? Je suis pas sûr, moi. Enfin, voilà. Non, mais c'est vrai, quand Internet est arrivé, ma grande fille était fanatique d'Internet et je lui disais, essaye de travailler pour Internet. Oh non, papa, ça serait pas bien. Alors là, je ne comprenais pas. J'avais du mal à comprendre ce qui la faisait fonctionner. Je me suis dit, j'aurais dû. Et maintenant, elle me dit, t'aurais dû insister, parce que si j'étais parti là-dedans à 20 ans, aujourd'hui, ça serait sans doute, j'aurais inventé un truc, un machin. Mais il faut pas avoir peur de se confronter à sa passion. Se dire, voilà, on est passionné de cinéma, et ben on veut faire un film comme Spielberg. À 14 ans, il faisait des petits films chez lui avec sa caméra, et puis ça a donné Steven Spielberg, quoi. Voilà, donc il faut pas avoir peur de jouer d'un instrument, de s'abîmer les doigts, essayer de faire des notes à la guitare ou de réfléchir comment on voit le monde, comment on voudrait qu'il soit. Faut pas avoir peur, faut oser, quoi.
Ouais. Et c'est quoi tes prochains défis où tu oserais?
Écoute, là, tu vois, j'ai répondu OK au Stade de France pour en faire un deuxième. Ça va être repoussé d'un an, donc maintenant c'est le défi d'être là encore capable en 2021 de faire ce spectacle. Donc il va falloir remplir la salle, il va falloir remettre ça. On était à 25 000 spectateurs le 15 mars. On a tout arrêté, on va rembourser les billets à ceux qui le souhaitent, les garder pour ceux qui veulent venir l'année prochaine, et on va tout recommencer en septembre.
Ouais.
C'est difficile, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu, c'est un truc qui arrive à tout le monde en ce moment, tous mes copains musiciens sont pareils, tout le monde, que ce soit les grands, les petits, que ce soit Louis Bertignac ou Laura Cox, ou que ce soit les Rolling Stones ou Monsieur Spronzi Spronza, ils ont tous, il n'y a plus de salle, il n'y a plus de public, il n'y a plus de concert, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va se réinventer, se réorganiser, donc on a du pain sur la planche, ouais. Et voilà, et on va continuer, on va essayer de continuer comme ça, et puis après, oh là là, tu sais, à un moment, il faut se décontracter, faut se dire, allez, l'important, c'est d'avoir le sourire tout du long, quoi, voilà.
Ouais, et est-ce qu'il y a un jour, tu penses que tu vas arrêter? Tu vas prendre une vraie retraite?
Mais non, parce que là, pas avant que... Encore, je me donne Ulysse à 8 ans. Je me dis, j'ai encore 10 ans. Quand il aura 18 ans, on commencera à voir un peu le bout. Mais là, pour moi, c'est la retraite. Tu vois, je me dis, si je peux écrire un bouquin tous les ans, si je peux faire un petit spectacle par-ci, par-là, si je peux faire une tournée promo pour mon bouquin, on verra, ça ira très, très bien.
T'es heureux comme ça?
Mais oui, moi je suis très heureux. Mais il y a plein de gens qui me proposent des choses et tout. Je réfléchis, je me dis on verra, on va voir, on va savoir, pourquoi pas.
Et du coup, c'est ta femme qui est ton agent ou tu as un agent
Bon, j'ai un agent, Madame Brolier, qui est formidable, que je connais depuis 25 ans, depuis 95, et on est copains, et c'est mon agent, et elle gère tout, elle fait tout bien. Quand les gens l'appellent, je voudrais Philippe Manœuvre pour faire ceci, cela, elle dit ok, elle m'appelle, on en parle, on prend nos décisions ensemble, voilà, c'est très sympa d'avoir quelqu'un qui est... Et ma femme, elle est plutôt du côté de la promo, de la présentation. Quand je faisais ma campagne pour le Stade de France, souvent, elle m'a appelé 5 minutes avant une émission en me disant « Ils vont essayer de te lancer là-dessus, ne réponds pas, sois malin, tu es venu pour remplir un stade, ne parle pas de tel sujet. » Ou, tu sais, parce que la télévision n'arrête pas de te dire « Alors, Koh-Lanta, vous avez regardé les nouveaux numéros ?» Ben rien. Moi, enfin, tu vois, si on m'interroge sur l'Eurovision, j'ai peu de choses à dire. Gentil, tu vois, pour moi, c'est bon. Mais je me suis retenu. J'ai appris. C'est sûr, je me suis retenu. Et grâce à Candice, j'ai fait passer le message. Et à la fin, ben, on était 51 000 dans le Stade de France. Et c'était ça, le seul message qu'il fallait, en fait. C'était pas la peine de parler de tout ce qu'on m'achetait dans les roues sur le chemin. Il fallait pas perdre le
but. Fallait être focus.
Voilà, fallait être zen et cool. Voilà.
Top. Dernière petite question avant qu'on se quitte. À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi?
Ben, à tous les gens qui m'ont aidé, les gens comme tous mes patrons, que ce soit Philippe Coquelin, mon premier rédacteur en chef de Rock et Folk, ou Jean-Pierre Dionnet qui m'avait confié les clés de Métal Hurlant, ou Pierre Lescure qui m'avait fait faire Les Enfants du Rock, ou Laurent Ruquier aujourd'hui, quoi. Enfin, vraiment, tous ces gens qui me font confiance, qui se disent « Allez, on va travailler avec lui, on va essayer de faire des choses ». C'est merveilleux, c'est eux les gens à qui j'ai envie de dire merci, parce que le rock c'était considéré comme oui, méfiez-vous, c'est un rocker, il va se droguer, il va picoler, il va partir avec votre bonne femme, enfin oh là, enfin tu vois, non mais il y avait beaucoup de rumeurs, de choses au début, c'était pas facile pour les gens du rock, on était considérés comme ni plus ni moins que des révolutionnaires, libertaires, anarchistes, tout quoi. Donc, confier un boulot à quelqu'un qui venait du rock, c'était pas évident. Merci à tous ceux qui m'ont fait confiance. Voilà.
Bon, bah, génial. À mon tour de te remercier, Philippe, pour ton temps et puis ton super témoignage.
Mais Charlotte, pas de problème.
J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Si vous avez des questions à poser à Philippe, n'hésitez pas à m'envoyer un email à charlotte@pourquoipasmoi.co. ou à me faire part de vos commentaires. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi ?